Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Falsification des documents, que dit la loi à ces sujets? Certaines personnes, pour une raison ou pour une autre, se permettent de falsifier les documents officiels. L'échange des chiffres, des noms ou les dates ou toute autre donnée, ce qui constitue évidemment une infraction au regard de la loi. Alors, quelles sont les sanctions prévues par la législation congolaise en cas de falsification des documents et comment vérifier l'authenticité d'un document? On aborde toutes ces questions avec notre invité Guilhem Allaire, juriste. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, qu'est-ce que la loi dit par rapport à la falsification des documents?
Oui, Jody, si vous permettez, d'abord, on parle de falsification lorsque la vérité est altérée et dénaturée. Mm-hmm. Donc, la falsification des documents, c'est faire en sorte que les documents représentent finalement une vérité autre que celle qu'ils sont censés, renseigner. Alors, il y a dedans une idée de tromperie, il y a dedans une idée de tricherie, et c'est donc ce que la loi appelle des infractions qui atteignent la foi publique. Mmh. Parce que vous savez, une société dans laquelle on ne sait pas avoir confiance dans les documents officiels, ou même dans les documents établis entre parties et signés par les deux parties, eh bien il y a une insécurité juridique que le législateur a voulu combattre en érigeant les différentes formes de falsification des documents en infraction, dont l'infraction la plus connue est celle des faux commis en écriture ou de faux documents, on l'appelle comme ça sous d'autres cieux. Mmh. Chez nous, c'est l'article 124 du code pénal qui parle de l'infraction des faux commis en écriture, c'est-à-dire lorsque l'on falsifie un document, c'est généralement les mentions qui sont portées par ce document qui sont d'une manière ou d'une autre falsifiées. Et donc cette infraction est punie d'une peine de prison qui peut aller de 6 mois à 5 ans, ainsi que assortie d'une amende ou pas. Donc voilà, cette infraction est sévèrement sanctionnée par notre loi. Mmh. Et la loi prévoit une circonstance aggravante.
C'est laquelle?
À l'article 125, c'est lorsque l'auteur de la falsification du document est un fonctionnaire ou un agent de l'État. En ce moment-là, la peine maximum qui est de 5 ans pour les faux commis en écriture par n'importe quel citoyen, lorsque c'est un fonctionnaire qui commet la même infraction, eh bien la peine est portée jusqu'à 10 ans avec assortie d'une amende. Donc vous comprenez que lorsque c'est un fonctionnaire qui commet un faux, eh bien ce faux devient punissable jusqu'à 10 ans de servitude pénale. C'est dire combien est-ce que la loi punit sévèrement cette infraction, et c'est peut-être ici le lieu de dire qu'on est quand même étonné de voir que c'est quasi quotidiennement que les gens falsifient les documents.
Quels sont les documents qui sont généralement falsifiés? Les passeports, un diplôme?
Je pense d'abord, on peut commencer par les documents attestant l'identité des personnes, prenons les attestations de perte des pièces. Souvent, les gens, ils mettent un âge inférieur à celui qu'ils ont, tout simplement parce que, vous savez, de plus en plus, à l'embauche, on n'accepte plus les gens au-delà d'un certain âge. Et donc, comme ici chez nous, les gens traînent aux études, fermetures, etc., années académiques.
Années blanches, tout ça.
Alors, les gens, comme ça, ont entrepris de s'aménager des pièces d'identité sur lesquelles ils changent leur date de naissance. C'est une falsification. Et sans le savoir, l'idée est peut-être bonne, noble, dans son intention de trouver un emploi, mais en réalité, c'est un faux. On a aussi des faux diplômes. Toujours dans le cadre de l'obtention d'un emploi, les gens se confectionnent des diplômes d'État tout à fait faux ou d'autres diplômes prétendus obtenus dans une université étrangère et qui, après vérification, n'existent
avec beaucoup de pourcentages, des grandes distinctions.
Donc, il y a des testaments, des documents comme des testaments qui sont laissés par des défunts, qui sont traficotés par des gens qui prétendent n'est-ce pas avoir parlé avec les défunts et qui constatent constate que telle ou telle, telle autre personne a été laissée de côté dans le partage, elle l'insère. Et puis
les passeports à l'époque, je ne sais pas si ça continue cette pratique-là.
Les passeports qui se fabriquaient dans une certaine commune de notre ville, qui s'était déjà tapé une réputation dans ce sens-là.
Les gens qui changeaient même des photos avec la même identité d'une autre personne, bon, on met la photo d'une autre personne.
Exactement. Il semble même qu'il y en a qui obtiennent comme ça des fausses cartes des résidents et qui, sans avoir jamais été dans un certain pays, par exemple, se présentent à l'aéroport pour dire qu'elles voyagent pour rentrer dans le pays de résidence. Et il suffit d'un petit test par les services de renseignement, la DGM notamment, on se rend compte que la personne ne parle même pas de la langue du pays.
Oui, la personne est coincée.
Etc. Donc les gens ont imaginé un nombre incalculable de fraudes, de falsifications des documents. Et souvent, et c'est ce que dit la loi, il faut que la falsification en question ait été faite dans le but de frauder ou alors dans le but de se procurer un avantage de manière illicite.
Donc ça, et là, la sanction est de 6 mois à 5 ans.
Exactement, je vous dis 6 mois à 5 ans de prison de si prison. Vous êtes attrapé sur les faits. Donc,
Et si c'est un agent de l'État, c'est 10 ans.
Jusqu'à 10 ans de servitude pénale, donc de prison, je vous dis, vous avez raison.
Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapu.net. Mais parfois, maître, il est difficile de vérifier l'authenticité d'un document. Vous êtes les 22 documents, vous trouvez que c'est identique, vous pouvez croire que c'est vraiment l'original, quoi, alors que c'est le vrai faux.
Exactement, et ça c'est lorsque le faux, par exemple, est fait par imitation d'une signature. Il y a des gens qui excellent en ça. Et lorsque le faux est fait par apposition d'un cachet qui ressemble vraiment au cachet au sceau de l'administration qui le délivre habituellement. Et donc ça, ce sont des faux apparemment vrais et qui sont très difficiles à déceler. Et de plus en plus, pour les imprimés de valeur, par exemple, maintenant on fait des imprimés de haute sécurité ou avec un ordinateur.
Hologrammé, etc.
Donc,
avec hologramme.
Alors pour les restes, là, les documents qui ne sont pas des très hautes sécurités comme ça, effectivement, je vous dis, pour déceler un faux, ce n'est pas facile. Il faut éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui vienne dénoncer pour dire que tiens, c'est souvent par des circonstances assez fortuites là qu'on en arrive à... J'ai été par exemple confronté à un cas là, et pendant que je voyageais, j'ai vu quelqu'un qui s'est présenté avec un document apparemment bon, mais il semble qu'il avait oublié que le sceau des visas d'entrée et de sortie, les cachets d'entrée et de sortie de la DGM avaient changé. Et donc lui, à la période à laquelle il prétendait avoir effectué son déplacement, aller et tout, eh bien il avait mis un sceau, mais ce sceau là c'était l'ancien. Donc vous voyez, et donc devant les agents spécialisés, il est très vite découvert, mais nu était ça. Son passeport donnait l'impression d'un passeport qui avait déjà servi par le passé, alors que c'était pour lui donner une apparence de vrai en y mettant déjà quelques sceaux de sortie et de retour pour montrer que c'était un passeport qui avait déjà été utilisé. Mais il a été pris par le fait que le sceau utilisé, n'est-ce pas, était déjà dépassé, avait déjà été changé entre-temps. Donc là, il faut...
Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on interpelle la personne.
Tout de suite, la personne est interpellée. Il y a flagrance, interpellée, auditionnée par les services qu'il a coincé, s'il y a des OPJ, et ensuite acheminé vers le parquet, du parquet vers le tribunal, du tribunal vers la condamnation. Donc, malheureusement, ça arrive. Quand c'est en train d'être fait, les gens ne se rendent pas compte que l'acte qu'ils posent est très grave. C'est lorsqu'ils sont pris sur les faits que le ministère public, lors du procès, requiert une peine de 5 ans de prison, qu'ils se rendent compte que, tiens, je suis juste une petite signature de jeudi que j'ai imité et qui me vaut ça. Donc, faut faire très attention, l'infraction de faux est très mauvaise. Et donc, le faux, évidemment, ça, c'est la confection du document. Mais le fait d'user du faux, parce que nous avons dit ici que le faux peut être fait par une personne, et l'usage de ce document
par une autre.
Lorsque le fonctionnaire, par exemple, établit un faux passeport ou bien un faux laissez-passer, etc., eh bien, vous, je vous dis, qui en usez, eh bien, vous êtes aussi puni des mêmes sanctions que l'auteur du faux lui-même. Donc, c'est ça l'usage.
Donc, tous les deux, vous allez couper des 10 ans.
Et celui qui a confectionné le faux, effectivement, je vous dis, et celui qui a utilisé le document faux, les deux sont punis de la même sanction.
Symphoria nous appelle des Kananga. Verdier est à Kalemi. Vous voulez également participer? Composé des 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Falsification des documents, que dit la loi à ce sujet? Symphoria, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions. La première, en suivant l'invité, c'est comme si il a parlé dans les cas où la personne a déjà falsifié les documents, où on a déjà falsifié pour lui et il est allé se présenter, par exemple, dans un service. Mais ici à Kananga, il y a des spécialistes, des gens qui se sont spécialisés dans la falsification. Ils ont leur domicile, ils ont les sceaux de toutes les institutions.
Oui.
Est-ce que si vous attrapez une telle personne, est-ce qu'il y a moyen de dénoncer et que prévoit la loi dans ces cas? Une deuxième question.
Oui.
Il y a beaucoup d'élèves, surtout dans la période des inscriptions, qui falsifient des bulletins et ils partent avec dans les institutions. Et les préfets savent bien que ce bulletin ici n'est pas authentique et ils inscrivent ses élèves. Est-ce qu'il y a aussi une sanction à l'égard de ces élèves et aussi des préfets qui inscrivent ses élèves? C'est un peu mes deux questions, je vous remercie.
Bien, merci. Monsieur Verdier, vous êtes à Calémy, bonjour.
Bonjour la radio Okapi, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation, je vais adresser à l'invité, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Mais si c'était dans les cas où c'était un mineur qui a falsifié un document, prenons par exemple un jeune garçon, soit une jeune fille âgée de 17 ans, c'est cette dernière ou ce dernier qui a falsifié un document quelconque, quelle est la sanction prévue par la loi?
D'accord, merci. Rachel, vous êtes à Iziro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute?
C'est à Kinshasa, je suis.
Vous êtes plutôt à Kinshasa, Tati, Rachel est à Kinshasa. On vous écoute, Rachel.
Oui, j'ai juste une seule question. Je voudrais un peu savoir. Quand on voit souvent les élèves, quand ils échouent, ils parlent qu'on puisse le faire encore un autre bulletin pour monter alors la classe. Est-ce que ça, on peut appeler ça sur la falsification?
D'accord. Merci, Rachel de Kinshasa. Maître Guilla.
Oui, merci beaucoup. C'est toutes des questions assez subtiles. Je commence par Symphorien. Effectivement, lui, il parle des gens qui détiennent.
De maisons.
Oui, avec, dans lesquelles ils ont tous
les cachets, les signatures de toutes les autorités.
Alors, tous ces cachets-là, tous ces instruments qui servent à fabriquer des faux documents, sont eux-mêmes déjà des faux, n'est-ce pas?
Oui.
Ce sont des faux cachés, etc. Mmh. Et donc, on est là dans ce qu'on appelle la contrefaçon, n'est-ce pas? Mmh. On est là dans la contrefaçon selon ce que la loi a prévu.
Oui.
Et c'est une infraction apparentée à celle que nous avons. J'ai dit tout à l'heure que dans la famille de la falsification, il y a plusieurs infractions dont la principale est celle des faux documents, donc de faux en écriture.
Oui.
Mais effectivement, la loi a prévu aussi ces situations-là que Symphorien a évoquées, en prévoyant que lorsqu'il y a contrefaçon ou falsification des sceaux, la personne ne peut encourir jusqu'à 15 ans au maximum. Vous voyez que la peine grimpe encore. C'est l'article 121 du Code pénal livre 2 qui dit que le fait d'avoir contrefait des sceaux, n'est-ce pas, des timbres et autre chose, peut amener, n'est-ce pas, l'auteur et les détenteurs de ce genre d'instruments à subir une peine de prison
15 ans.
De 15 ans au maximum.
Oui.
Et même lorsque ces personnes-là exposent et vendent les produits de leur contrefaçon, parce qu'il y en a même qui fabriquent à l'avance, par exemple des imprimés des valeurs et qu'ils vendent à des agents véreux, etc., ils sont mis dans la même catégorie. Donc, Symphorien a raison. Même avant la fabrication, le simple fait d'entretenir une officine dans laquelle se passe ce genre d'opération est récupéré par la loi, par l'article, donc j'ai dit 121 du code pénal. Pour les bulletins, Symphorien rejoint Rachel.
Rachel, c'est la même préoccupation.
Exactement, c'est un cas typique de faux documents, donc de faux en écriture, où les mentions qui sont portées sur le bulletin ne correspondent pas du tout au résultat que l'étudiant ou l'élève a obtenu.
Et tout ça, c'est encouragé par les parents. Certains parents, ils veulent pas que l'enfant redouble, reprenne des classes. On n'a pas l'argent pour payer l'école minimale, donc il faut tout faire pour.
Oui. Malheureusement, les gens croient que c'est une solution, mais en fait, ils se rendent coupables d'infraction. Et Symphorien a raison de préciser qu'il y en a certains préfets ou responsables d'école qui apparemment hein, savent que ça c'est un faux bulletin.
C'est un faux, mais qui
inscrivent quand même, parce qu'ils se disent, tiens, surtout lorsque c'est une institution privée qui a besoin
d'argent,
d'argent, etc. Eh bien, ça c'est la complicité. Eh bien, la loi prévoit que les complices est aussi sanctionné d'au moins la moitié de la peine qui est infligée à l'auteur lui-même de l'infraction. Donc, il y a ici une sorte de complicité d'un tel préfet, et donc il sera récupéré par la loi. Enfin, Verdier de Calémie lui parle d'un mineur, parce que les mineurs aussi ils font des choses, hein, je vous le dis. Et donc si c'est un mineur, je suis sûr qu'il part de l'idée que le mineur est irresponsable pénalement, donc il ne peut pas en principe faire la prison dans notre pays. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un régime spécial légal qui est institué pour les mineurs. Je n'ai pas la loi avec moi, mais je sais que dans ce cas-là, le mineur commet ce qu'on appelle un comportement déviant. Et pour les comportements déviants, il n'y a pas de peine, mais il y a des mesures. Des mesures de redressement du mineur qui peut être pris et mis à la disposition de l'État, n'est-ce pas, pour être redressé, être mis dans une maison d'éducation et de rééducation de l'État. C'est encore un autre débat.
Là, c'est encore...
Ces maisons-là n'existent plus pour la plupart.
Oui.
Mais en principe, la loi prévoit des mécanismes pour que ces mineurs qui affichent des comportements déviants comme celui-là puissent être mis dans des maisons de rééducation de l'État.
Charles nous appelle de Lubumbashi. Esther Oubedi se trouve à Roux. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour à l'invité. C'est Charles Salangueta.
Charles Salangueta, on vous écoute.
Oui, merci pour la parole. J'ai constaté ici à Lubumbashi parce que je suis un enseignant d'une école privée de la place.
Oui.
Maintenant, lors de la visite des experts, les inspecteurs en assistant un enseignant dans les rapports là-bas, même si l'enseignant arrive à distinguer, ils ont essayé de minimiser l'enseignant. Et en déposant les rapports au directeur, par exemple, il dit que l'enseignant n'a pas bien presté. Au lieu de mettre sur la mention spéciale, lui, il va essayer de minimiser l'enseignant. Maintenant, le directeur aussi, il arrive, par exemple, à falsifier cela. Comment la loi fait condamner le directeur, par exemple, lors des procès?
Donc, le directeur soutient l'avis de l'inspecteur, c'est ça?
Oui, le directeur aussi ne considère pas ce que son inspecteur a donné comme rapport.
Et lui, il donne une autre mention.
Parce qu'il est bien, il est bien rassuré de son enseignant.
Ah, d'accord. On comprend bien la situation. Merci. Esther Oubedi, vous êtes à Aroux, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, je vous bonjour à tous.
On vous écoute, Esther.
J'ai une proposition à expliquer à mes invités.
Oui.
J'ai eu un cas où un enseignant a pu falsifier le dossier de mon enfant. Et cette falsification a confirmé seulement tous les trimestres, donc les tout derniers trimestres. La fois est à deuxième. Comment il a pu falsifier ce dossier? Et donc, les trimestres concernés n'étaient couverts rien que de la supervision. C'est-à-dire, vous voyez, il y avait un premier compte auparavant qui est remplacé par un deuxième compte. Et, chose étonnante, tous ces deuxièmes comptes ne sont rien que des richesses très profondes, comme par exemple 1 sur 10, 2 sur 4, 20, 5 sur 100.
Mais Esther, dites-nous, comment vous avez su que l'enseignant avait falsifié les documents de votre enfant, le bulletin de votre enfant?
Oui, voilà, j'arrive. De façon que ce dernier trimestre a enrichi tous les frais de trimestre précédent, et donc la part qui s'échoue. Mais comment j'ai pu remarquer, comme vous me demandez là, parce que je suis arrivée là, à la proclamation, j'arrive à l'école, moi j'ai des effets de mon enfant, parce que selon moi, l'enfant n'avait pas bien travaillé et que j'avais décidé de changer d'école. C'est comme ça que j'arrive à l'école, je viens, je demande le bulletin de mon enfant, voilà, on me donne ce bulletin là, et je vois que partout là, il y a des entrées pour les faire, pour les troisième trimestre. Alors, quand j'essaie de demander, voilà, parce que tout cela, il n'y a pas vraiment une bonne explication. Comme on a pris le dossier en main, nous avons saisi la direction, la conseillerie de l'école même, et après toute une longue enquête, la Seigneur avoue que cet enfant n'a pas mérité cet échec mais lui, le Seigneur a été influencé par une autre personne pour faire échouer ce passage. Et il nous donne même le pourcentage qu'avait reçu notre enfant et que la foi devrait monter des places. Alors, tellement que la tête tournée a pris beaucoup de temps, alors que déjà dans d'autres écoles, on avait déjà des questions. On faisait inscrire déjà des enfants dans des écoles, mais mon enfant n'est pas encore en règle. Parce que là où je suis partie, on a refusé ce que j'ai présenté à l'école. J'ai dit que non, c'est que ça avec des larmes, on ne peut pas continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais décidé maintenant d'inscrire la fin avec le bulletin de première année, parce que la fin est deuxième.
Oui.
Et là, ce bulletin, la fin a échoué.
Alors, maintenant, quelle est la question?
On va accepter même cet échec-là.
Oui.
J'ai dit non, ça ne me fait pas. Alors, j'ai dit que non, la fin risque de perdre encore l'année, parce que ma tête n'est pas proposée. Alors, j'étais obligée de l'inscrire avec ce bulletin de l'année antérieure.
Oui.
Donc, c'est aussi comme si mon enfant n'a pas expliqué ce pardon. Donc, il a passé une année de l'année. Alors, et pour ça, quand il y a des esprits, c'est là où on n'a pas compris du fait que l'enseignant nous bloque en étant de leur citer le nom de la personne qui l'a influencé à cet âge-là. Mais aussi nous remarquer le nom, l'intérêt de la direction et même de la conférence de cette école à cet âge-là. Alors, comme l'émission du jour vient de bien tomber là, je demande à notre invité de nous aider si, à l'époque où nous sommes présentement, nous pouvons saisir quelle phase hiérarchique de B. Si réellement on trouve que l'enseignant a falsifié le bulletin de son enfant et qui a abouti à son échec, comment la sanction qui peut lui être donnée à ce
sujet? D'accord.
Est-ce qu'on peut demander qu'il puisse dédommager l'enfant ou peut-être qu'il peut faire face que seulement nous sommes plus?
D'accord, merci Esther. Emmanuel, vous appelez depuis Isiro. Isiro en province orientale, bonjour.
Bonjour, bonjour à Radio Capi, bonjour à toutes les personnes qui me suivent maintenant.
Nous parlons de la falsification des documents, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui.
Nous parlons de la falsification des documents, on vous écoute?
Oui, merci beaucoup, le sujet m'a beaucoup intéressé. J'ai des préoccupations à poser à notre invité du jour. Par rapport aux gens qui falsifient pas mal le permis de conduire. Ici dans notre province orientale, précisément ici, nous voyons qu'il n'y a pas de différence entre le permis qui sont originales et ceux qui ne sont pas originales. Alors, les gens falsifient pas mal de permis et tout le monde, même le mineur, ont des permis de conduire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à des personnes pareilles. La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux institutions, précisément, prenons le cas de notre école secondaire d'ici à Isiro.
Oui.
Y a pas mal de gens qui falsifient le bulletin pour aller étudier ailleurs.
Oui.
L'enfant échoue, par exemple, à l'Institut Saint-Quisite, que j'ai sali en passant, là où j'ai décroché mon diplôme. Et puis, quand il échoue là-bas, il sort, il part,
faire fabriquer
à la
Téné
ou...
Oui.
À une école privée, et puis il entre, il falsifie le
bulletin.
Le bulletin, et puis on l'admire carrément, et puis il continue les études.
Oui.
Je m'inquiète beaucoup par rapport à ça.
Oui.
Si on peut mettre des dispositions par rapport à de telles choses, ça pourrait nous arranger d'aller de l'avant.
D'accord.
Merci, Emmanuel Tiribagula dans la ville de Chiro.
Emmanuel Tiribagula, merci. Christian Mayimbe, vous êtes à Kalimi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour aux
autres
auditeurs de la radio Papi.
Christian, veuillez vous éloigner de votre poste et récepteur et réduisez carrément le volume de votre radio et allez-y rapidement.
Oui,
votre question.
Éloigné.
D'accord, quelle est votre question?
Bon, ma première préoccupation s'adresse à l'invité parce que j'ai bien suivi tout ce qu'il a dit, mais il y a certains établissements qui sont reconnus que ce sont des établissements qui fournissent des faux documents dans d'autres villes. Je me réserve de citer les noms.
Oui.
Mais si vous y allez, vous demandez tous les documents, même les diplômes d'État, même les relevés, tout y est. Mais vous allez vous rendre compte que ce sont des établissements qui ont des parrainages de certaines autorités locales. Et de grandes autorités, même des gouverneurs, même des maires de la ville, même tout. Maintenant, je me demande, est-ce que la loi favorise les autorités pour être les parrains de ces établissements, parce que c'est reconnu même dans la ville de Bukavu, Kalemie et partout, il y a des établissements comme ça.
D'accord.
Qu'est-ce que l'invité peut nous dire que, au sujet de ces autorités qui font les parrainages de ces établissements-là?
D'accord,
c'est
merci.
C'est d'abord ça mon premier...
Alors,
votre
première question, alors, oui, allez-y rapidement avec la deuxième question.
La deuxième question se trouve sur les écoles qui ont besoin des élèves seulement, afin d'agrandir le nombre de leurs classes. Maintenant, ils ne tiennent pas compte des qualités de leurs bulletins ou d'autres documents.
D'accord.
Alors, même s'il y a, une falsification,
on laisse passer.
Les chefs de ces établissements,
d'accord,
ne peuvent pas tenir compte de tout ça.
Oui.
Est-ce que les chefs aussi contribuent au cas frauduleux des documents?
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci. De Gaulle, vous êtes à Kisangani, Boyoma, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs là d'Okapi.
Quelle est votre question, De Gaulle?
Oui, ma question, c'est par rapport aux étangs voisins de la République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup de camps, notamment de l'Ouganda, qui se distinguent dans les falsifications, des imprimés et d'autres documents de valeur. Et je ne sais pas quelles dispositions légales prévoit la République démocratique du Congo par rapport aux États qui sont ou bien qui font cette pratique. Parce qu'ici, nous sommes précisément dans les camps de notre pays et les sanctions qui sont prévues concernent notre pays. Mais maintenant, par rapport aux États voisins comme l'Ouganda et d'autres États voisins, quelles sont les dispositions légales prévues par notre pays?
Voilà, les États qui excellent dans la fabrication des faux documents. Maître Guilain, vous avez la parole pour répondre à tous ces auditeurs.
Oh là là, jodi, ça c'est une pluie de questions. Alors je commence par Charles, je crois que c'est par là, Salangueta de Lubumbashi.
Mm-hmm.
Il parle des écoles privées, des inspecteurs qui viennent contrôler les enseignants.
Les niveaux des enseignants, il donne une cote faible, mais le directeur dit non, c'est pas ça. Il change parce qu'il connaît bien son enseignant, la capacité de son enseignant.
Alors d'abord, c'est très inquiétant, je vous dis, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui par les auditeurs sur notre enseignement. Et c'est vraiment déplorable. Mais ce que je peux dire ici, c'est que malheureusement, l'effet commis par l'inspecteur qui sous-cote un enseignant lorsqu'il est en train de le superviser, ça ce n'est pas un faux, parce que la cotation rentre dans les attributions de l'inspecteur. Donc c'est lui qui apprécie, c'est subjectif. C'est lui qui apprécie si l'enseignant est à la hauteur ou pas. Et donc lorsque cet inspecteur commet une injustice, un excellent enseignant qui est sous-coté pour une autre, eh bien ça, on est dans le domaine de l'administratif. Donc l'enseignant, j'espère, je ne connais pas très bien le monde de l'enseignement.
Le directeur de l'école n'était pas d'accord avec l'inspecteur et il a changé la cote qu'il avait.
Ça c'est l'autre échelon maintenant.
Oui,
pour l'inspecteur, c'est clair, il n'y a pas faux usage de faux, il y a falsification de rien.
Oui.
Il a donné sa cotation qui peut être mauvaise, donc l'enseignant peut faire un recours auprès de la hiérarchie pour que justice lui soit rendue, mais ça n'a rien de pénal. Par contre, le directeur de l'école qui prend la fiche de cotation de l'inspecteur et qui trouve que ça a été une injustice et qui se permet de falsifier la cote qui a été mise sur cette fiche par l'inspecteur. Alors à ce moment-là, le directeur lui se rend coupable de l'infraction de faux. C'est un faux matériel parce qu'il a altéré le document dans sa matérialité. La fiche de cotation, et là je suppose qu'il va soit mettre du vernis correcteur ou gratter avec une lame de rasoir. Je ne sais pas comment il fera, mais en tout cas lorsque le directeur touche à la cotation telle qu'elle a été cristallisée par l'inspecteur, eh bien le directeur lui tombe dans l'infraction de faux et usage de faux malheureusement. Alors je crois que c'est Esther ensuite.
Esther depuis Harou qui parle de l'enseignant qui a falsifié le bulletin de son enfant.
Oui.
Et ça s'est remarqué bien parce qu'il y avait des encres correcteurs et l'enfant a échoué. Elle veut savoir quelle est la démarche qu'elle peut mener à ce moment.
Là nous sommes vraiment dans un cas typique de faux. C'est-à-dire que les points qui sont mentionnés sur le bulletin ne sont pas ceux que l'enfant a reçus, notamment sur ses feuilles d'interrogation et d'examen. Et là, effectivement, il y a faux, falsification de ce document-là. Cet enseignant-là est coupable, n'est-ce pas, peut-être poursuivi pour l'infraction de faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller soit auprès des inspecteurs judiciaires, soit auprès du parquet le plus proche. Et là, le procureur de la République va désigner un magistrat qui va instruire, mais alors le problème qui va se poser, c'est celui des preuves. Il faut avoir alors les documents sur lesquels, n'est-ce pas, l'enfant a reçu la véritable cotation et démontrer ainsi qu'en transcrivant les points, le professeur a sciemment fait de dénaturer la vérité pour faire échouer l'enfant. Et une fois transféré devant le parquet, eh bien, l'inspecteur va être amené à répondre de ces faits, soit devant un juge, soit devant
l'enseignant.
L'enseignant. Et même, il peut être amené, n'est-ce pas, à dédommager l'enfant parce que ça, c'est un dommage. Mais le dédommagement le plus important dans ce cas-là, moi, je pense, c'est que la justice va ordonner que le bulletin qui reflète la réalité, que d'abord le faux bulletin soit détruit, mais que celui qui reflète la réalité des points obtenus par l'enfant soit réhabilité. Et ça peut permettre, si ce n'est pas tard, hein, l'année académique, l'année scolaire est suffisamment avancée, ça peut permettre à l'enfant de passer des classes. Ça, c'est en dehors des autres formes de dommagement d'argent et consorts dommages-intérêts. Mais je pense que le plus important, c'était de faire en sorte que l'enfant ne perde pas une année scolaire comme ça par le fait de fraudeur.
Oui.
Alors,
Emmanuel depuis Siro nous dit que là-bas il y a des permis de conduire, même les jeunes gens, les mineurs ont des permis de conduire. Donc là-bas, la falsification des permis de conduire est extraordinaire. Alors il se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça.
Alors, Jody, je n'ai plus très bien noté l'article que je vous ai donné pour dire que ça, c'est le cas typique d'un faux qui est commis par un agent public, un fonctionnaire de l'État. J'ai dit que c'était l'article 125 justement. Et dans ce cas-là, les auteurs, hein, ceux qui émettent de tels permis de conduire qui sont manifestement faux, eh bien, sont punissables jusqu'à 10 ans de prison, nous avons dit. Le problème dans notre pays, c'est souvent la dénonciation qui manque. Vous savez, l'État ou la justice ne sait pas sévir si les cas ne sont pas portés à sa connaissance.
Les gens n'aiment pas dénoncer.
Malheureusement. Donc, si vous... mais il faut aussi avoir des preuves, hein, parce que si vous dénoncez sans avoir les preuves nécessaires, mais... pour le cas d'un permis de conduire, vous avez le permis de conduire, vous connaissez l'officine qui a émis ce permis, eh bien, vous pouvez le prendre et aller trouver n'importe quel magistrat du parquet. Eh bien, de tels agents de l'État seront poursuivis et éventuellement attirés devant les cours des tribunaux pour être sanctionnés.
Christian de Calémie nous dit qu'il y a des établissements qui ont excellé dans la fabrication des faux documents. Et c'est connu, des maisons entières qui fonctionnent là-bas et qui sont parrainés même par certaines autorités. Alors, il veut savoir qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ce genre de situation.
L'accusation me semble très forte. D'abord, une autorité est censée ne pas cautionner de tels comportements. Une autorité est placée justement pour faire en sorte que les choses marchent conformément à la loi.
Oui.
Et donc, encore une fois, c'est un problème de dénonciation. Si ces faits sont dénoncés, je suis presque sûr qu'une telle autorité peut facilement perdre soit son mandat, si c'est une autorité qui est là par la voie des élections directes ou indirectes, soit être démis de ses fonctions si elle est placée là-bas par nomination. Et voilà pourquoi dans chaque province, il y a un procureur général qui est le numéro un du parquet, qui est le maître de l'action publique dans chaque province. Et lorsque c'est une autorité qui est impliquée, il faut veiller à ce que l'accusation soit portée à ce niveau-là. Parce que le procureur général a suffisamment d'autorité pour interpeller n'importe quelle autorité dans la province. Donc c'est là-bas qu'il faut aller, mais encore faut-il une fois dénoncer comme nous l'avons
dit. Et quelle est la procédure pour dénoncer?
Bon, vous pouvez le faire par écrit. Vous pouvez faire une dénonciation, et c'est un devoir civique de tout citoyen, dénoncer un écrit en indiquant les preuves ou les personnes qui peuvent témoigner. Vous écrivez à monsieur le procureur général près la cour d'appel de telle province, ou bien alors vous vous présentez vous-même devant lui, et il va commettre un magistrat qui va enregistrer votre déposition sur un procès verbal et vous signer. Donc voilà, je vous dis, c'est assez facile.
Et qui a qualité, qui peut les dénoncer?
N'importe qui qui est au courant des faits, je dis, même vous, lorsque vous constatez un fait infractionnel dans votre entourage, vous avez le devoir de les dénoncer parce que vous rendez à ce moment-là service à la communauté. Ça s'appelle la dénonciation. Et la plainte, c'est lorsque c'est vous-même la victime, vous allez porter les faits à la connaissance de la justice. Mais un tiers aussi, qui n'est pas directement lésé par l'infraction, mais qui a connaissance, peut, n'est-ce pas, porter plainte, c'est ce qu'on appelle la dénonciation, lorsque c'est l'effet d'un tiers.
D'accord. Et De Gaulle de Kisangani nous dit qu'il y a certains États qui ont excellé aussi dans la falsification des documents. Il a cité l'Ouganda, le cas de l'Ouganda. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça?
Bon, De Gaulle, ça c'est encore une fois quelque chose d'assez surprenant. Mais lorsque les faits de falsification des documents sont commis dans un État étranger par des personnes bien identifiées, c'est très facile et la coopération judiciaire entre États existe. Il suffit de voir notre procureur à nous ici, procureur de la République ou le procureur général. Eh bien, il va faire ce qu'on appelle une commission rogatoire. Il va demander à son homologue qui est dans cet état-là, de poursuivre les faits qui ont été constatés dans les chefs d'un de ces citoyens là-bas. Et enfin, si vous permettez, Jody, pour qu'il ne se sente pas frustré, Christian a posé une deuxième question sur le laxisme dans le contrôle des bulletins. Les bulletins faux, mais il y a des écoles par besoin d'élèves.
Les écoles privées qui ont besoin d'argent acceptent tous les faux documents.
Eh bien, tout simplement, des responsables d'écoles comme ceux-là se rendent coupables de complicité d'usage de faux. Parce qu'en ce moment-là, les élèves viennent avec des faux pour en user. Et ces responsables d'écoles, il y en a même, semble-t-il, qui encouragent en disant, écoutez, je peux vous aider, mais trouvez quand même un bulletin.
Allez rapidement trouver un bulletin.
Qui nous facilite de faire la chose. Donc ça, c'est la complicité avéré clair, et donc il sera puni, un tel responsable.
De 6 mois à 5 ans.
Exactement comme l'auteur du faux aujourd'hui.
Bien, merci Maître Guilhem Aléré, vous êtes journaliste, merci et bon début de semaine.
Merci et bonne année surtout à vous aujourd'hui et à tout le personnel de Radio Capi.
Merci.